peux vous dire précisément ce que vous allez chercher demain matin à l'aéroport, mon petit Perrache. Un piège à con.
Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Au quatre coins de Paris, on va le retrouver éparpillé par petits bouts à son puzzle.
Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Et bien lui, c'est pareil, c'est juste.
Pigeon, oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, dans mon regard, tu te dérobes, tu es vraiment le plus agile.
Bonjour et bienvenue en presque direct avec l'équipe de Studio Ciné, la nouvelle émission mensuelle qui vous parle du cinéma et de ceux qui le font. Pour cette première édition, au programme Sandrine Kraïka et Lionel Guéguin commenceront par l'actu ciné du mois.
Nous vous parlerons des sorties en salle, des sorties DVD
et des films à ne pas manquer sur le petit écran.
Georges abordera ensuite les métiers du cinéma dans la rubrique Ciné-Métiers. Alors Georges, quel va être le thème de ce jour ?
Eh bien, pour notre première émission, c'est le maquillage qui sera à l'honneur. Faustina nous donnera son témoignage, nous accompagnera et partagera avec nous son expérience et sa connaissance. Ensuite, Enes, étudiant en première année au BTS audiovisuel à Villefontaine, partagera son expérience aussi avec nous.
Sandrine passera ensuite à la Moulinette les films du grand et petit écran.
À la Moulinette, comme vous y allez Richard, je vous présenterai deux films aux univers radicalement différents. Ensuite, vous tenterez de gagner des places de cinéma avec la rubrique « La réplique du mois ». Richard Dumarteret nous parlera de l'actualité locale dans la rubrique « Ciné près de chez vous ». Où irons-nous aujourd'hui, Richard ?
Je vous emmènerai à Lyon et à Vizille.
Waouh, quelle aventure ! Pour finir, Georges nous parlera des films nationaux et internationaux en préparation.
Ah merde alors, comment on dit
comment
ça ?
Comment ça merde alors ? But alors, you are French ?
Alors, pour notre rubrique Actu Ciné, je vais commencer par vous présenter Détroit, en sortie cette semaine, Détroit de Catherine Bigelow. Cette cinéaste a déjà réalisé Des mineurs, Zero Dark Thirty, cela vous permet de la situer. Donc Détroit se situe aux États-Unis et revient sur les émeutes de 1967 et leur cause, une accumulation d'années d'oppression de la communauté noire par les blancs. C'est un film policier à la violence omniprésente ainsi que la musique, à ne pas louper.
Ah oui, oui, moi c'est mon tour. Blade Runner 2049. Que dire de Blade Runner 2049, si ce n'est que ce film est très attendu par les timbrés de science-fiction et ne peut être raté sous aucun prétexte. Que dire de Blade Runner 2049 avec le retour de Harrison Ford dans le rôle mythique du flic loser qui a certainement marqué sa carrière. Que dire de Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve qui prend tous les risques en essayant de coller à l'œuvre originale de Ridley Scott ? Que dire ? Sinon rien quand on n'a pas eu le temps de le voir. Heureusement, mon fils Théo, lui, il l'a vu et il m'a dit « Trop cool, papa !» C'est vous dire que vous pouvez y aller les yeux fermés.
Je crois qu'il y a une séance de rattrapage pour le Blade Runner original sur Arte la semaine du 12 octobre.
Je confirme.
Ambiance et lieu radicalement différents avec Confident Royal de Stephen Frears. Si vous aviez aimé The Queen du même réalisateur, montrant la relation entre Tony Blair et une Queen Elizabeth, parfaite Hélène Mirren, vous dégusterez Confident Royal, dans lequel, là, c'est l'arrière-grand-mère Victoria qui est mise à l'honneur, enfin à l'honneur, Stephen Frears filme un portrait peu flatteur de la monarchie britannique, avec une Judi Dench incarnant une reine Victoria méprisante, cruelle, raciste, bref, tout un beau programme britannique.
Vous pouvez nous rappeler le titre, j'ai pas bien compris.
Confident Royal de Stephen Frears.
C'est plus clair.
Absolutely.
Le tandem Nakash-Toledano, après la sortie de Samba en 2014 avec l'excellent Omar Sy, qui avait compté plus de 3 millions de spectateurs, s'initie son sixième film, Le sens de la fête. Dans ce dernier opus, ils retournent à leur comédie grand public, prenant le thème du mariage. D'ailleurs, ils s'y donnent à cœur joie dans l'exploitation des situations les plus clichés que nous offre ce genre de cérémonie. On y retrouve dans ce film choral un Jean-Pierre Bacri au firmament de ses rôles de bougon de service. Gilles Lelouch, lui, excelle dans l'interprétation du DJ Gros Beauf. Et Jean-Paul Rouve est très à la hauteur quand il incarne le photographe de la cérémonie qui ne pense, au passage, qu'à taper dans les différents buffets qui s'offrent à lui. Ce film, Éric Toledano et Olivier Nakache l'ont imaginé au moment des attentats de 2015, en réaction à une atmosphère plutôt chargée. Le besoin de montrer du vivre ensemble avec nos différences, d'avoir le sens du mélange, c'est aussi leur moteur. On peut le retrouver dans la plupart de leurs films comme Nos Jours Heureux, où l'action se passe dans une colonie de vacances, et Intouchable bien sûr, où se rencontrent deux hommes que tout sépare et qui malgré tout se trouveront. Vous avez besoin de bonne humeur et de joie de vivre, courez vite voir ce long métrage, vous en ressortirez avec la patate.
Ensuite, vous pouvez enchaîner avec numéro 1, ce sera beaucoup moins festif. Numéro 1 de Tony Marshall, c'est son dernier film, où l'on suit le véritable parcours du combattant d'Emmanuel Blachet, interprété par Emmanuel De Vos, qui se voit proposer le poste de PDG d'un groupe du CAC 40. Première femme à ce niveau de poste, donc numéro 1. Plongé dans les intrigues du pouvoir que les hommes veulent garder à tout prix et sont prêts à beaucoup de choses pour cela. Numéro 1 de Tony Marshall. Toujours en sortie ce mois-ci, l'atelier de Laurent Cantet, nous allons à la Ciotat où le temps d'un été, une écrivaine parisienne jouée par Marina Foïs anime un atelier d'écriture pour des jeunes en insertion. Un jeune l'intrigue particulièrement. Présenté comme ça, on pourrait s'imaginer un docu-fiction, mais Laurent Cantet nous emmène dans le film politique qui tourne au film noir, L'Atelier avec Marina Foïs. Et pour finir cette rubrique Actu Ciné, qui n'a jamais succombé au charme sensuel de Robert Redford, ou Jane Fonda autour de cette table, les deux ensemble, nous avons apprécié ce couple de cinéma dans Pieds nus dans le parc en 1967. Nous les retrouvons 60 ans plus tard sur Netflix dans le magnifique film Nos âmes la nuit. C'est tout pour cette rubrique Actu Ciné. Nous vous présentons à chaque fois des musiques de films. Pour commencer cette première émission, Midnight Express de Giorgio Moroder du film d'Alan Parker.
Vous êtes bien sur Couleur FM 97.1, Studio Ciné, l'émission sur le cinéma. Et nous venons d'écouter la bande originale de Midnight Express par Giorgio Moroder. Et moi, je vais vous parler de, aujourd'hui, le métier de maquilleuse. Et pour ça, j'ai eu un entretien téléphonique avec Faustina De Souza, qui exerce ce métier dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui est basée à Lyon.
Bonjour Faustina, bienvenue dans notre émission.
Bonjour.
Donc, tu es maquilleuse et est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Oui, moi c'est Faustina, je suis maquilleuse et je travaille essentiellement dans le cinéma, dans l'audiovisuel, et du coup, je suis intermittente du spectacle.
D'accord. Alors, même si, comme ça, l'intitulé du métier nous donne bien une idée de ce que ça peut être, est-ce que tu peux préciser en quoi consiste exactement le métier de maquilleuse ?
Alors, le métier de maquilleuse, ça consiste en plusieurs choses. Déjà, sublimer les comédiens, éviter qu'ils aient des brillances avec les caméras qu'on utilise maintenant qui sont en 4K, les lumières et tout ça. Donc déjà les rendre plus beaux. Et après, pour d'autres tournages, par exemple, si le réalisateur il veut créer un personnage, et moi je dois recréer ce personnage-là d'après la vision du réalisateur, en respectant sa vision à lui. Du coup, je peux totalement transformer un comédien en n'importe quoi.
Tu m'avais dit qu'il y a une partie effets spéciaux.
Oui, moi je suis maquilleuse, mais je suis également perruquière et plasticienne. Perruquière, donc je fais des perruques et des postiches pour les tournages. Et plasticienne, parce que je fais des effets spéciaux. Donc je fabrique des prothèses, je les sculpte, je fais des moulages et j'en tire du coup des prothèses que je viens poser sur les visages des comédiens. Donc ça peut être... Ça peut être une griffure ou un impact de balle à un faux bras, une fausse jambe, un loup-garou, un extraterrestre. Après, tout est possible.
D'accord. Après, c'est selon le bon vouloir du réalisateur.
Oui, après, il y a quand même des limites. Mais en maquillage, on peut quand même faire, en effets spéciaux, on peut quand même aller très loin et faire énormément de choses farfelues.
De quoi est fait le quotidien d'une maquilleuse ? Quelle est ta journée type ?
Alors la journée type d'une maquilleuse souvent commence très tôt le matin. On peut commencer, des fois on peut être appelé sur un tournage à 4h30, 5h du matin. Donc déjà il faut être un petit peu matinal. Ça dépend, après il y a plusieurs horaires, mais quand même c'est souvent très tôt le matin. Donc on arrive le matin, on doit maquiller les comédiens. Maquillage des comédiens. Après, ça peut durer suivant le nombre de comédiens. Ça peut être rapide ou plus long. Plus il y a de comédiens, plus c'est long. Et après, une fois que les comédiens sont coiffés, habillés, maquillés, une fois que la caméra est lancée, là, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de brillance, à ce que le maquillage bouge pas, à ce que les raccords soient bons, parce qu'on tourne pas forcément dans l'ordre du scénario. Donc on peut tourner par exemple une séquence où le comédien vient de courir et donc il doit transpirer, mais la séquence d'après peut peut-être se passer avant qu'il court, et du coup là faut faire comme s'il avait jamais couru, jamais transpiré, donc faut que le maquillage suive et que ça se et que ça se voit pas à l'écran, quoi, qu'il n'y ait pas de faux raccord.
D'accord, il faut qu'on reste raccord de toute façon.
Exactement, qu'on reste raccord. Et ce qui est important aussi, c'est de bien démaquiller les comédiens en fin de journée. Et pour que leur peau soit nickel, parce qu'ils travaillent avec leur peau aussi. Et puis c'est plus agréable de travailler sur le lendemain sur un comédien qui a une peau bien démaquillée et bien hydratée, plutôt que sur un comédien qui a été mal démaquillé. La peau va pas mal réagir le lendemain ou le surlendemain, quoi.
Il doit y avoir une relation particulière entre le comédien et la maquilleuse.
Alors il y a toujours une relation particulière entre le comédien et la maquilleuse. Ou même avec les coiffeuses aussi, parce que quand le comédien arrive le matin en loge maquillage, déjà ça le déstresse avant de passer devant la caméra, parce que c'est pas évident aussi de se faire filmer toute la journée. Il y a une cinquantaine de personnes qui vous regardent tout le temps faire ce que le réalisateur demande, donc c'est vrai qu'on peut se sentir un peu jugé. Et la séance maquillage en tout début de journée, ça permet au comédien déjà d'être plus détendu, parce que on s'occupe d'eux, on les chouchoute un petit peu, Nous, on est un peu les mamans des tournages, et ça permet aussi aux comédiens de prendre du temps pour eux, pour aussi rentrer dans leur personnage. À l'aide du maquillage, eux, ils arrivent à suivre la transformation parce qu'il y a toujours un miroir devant, et aussi beaucoup à l'aide du costume. Mais le maquillage aussi, même un maquillage naturel, permet aux comédiens de se concentrer et de rentrer plus facilement dans son personnage pour donner les intentions que le réalisateur va lui demander.
Oui, donc en fait, c'est un moment qui est très important sur le tournage.
Oui, c'est un moment très important, et c'est pour ça qu'en général, dans les loges maquillage, on essaye de garder le calme, qu'il n'y ait pas trop de bruit, et que ça soit déjà agréable pour les comédiens, et puis agréable pour nous, parce que c'est jamais évident de bosser dans le bazar avec beaucoup de bruit autour. Mais c'est vraiment un moment particulier, et je pense que tous les comédiens ont besoin de ce moment-là avant de rentrer sur le plateau et avant le moment du action.
Et alors, sur quel genre de projet tu travailles en ce moment ?
Ben, le 11 octobre, il y a un court-métrage que j'ai tourné mi-septembre, qui sort justement le 11 octobre. C'est une coproduction américaine avec des Lyonnais de Bloc 8 Productions. Et en fait, c'est un court-métrage où j'ai fait beaucoup de FX dessus.
FX, ça veut dire
effets spéciaux, du coup, prothèses, tout ça. Donc c'est un court-métrage qui sera visible sur la plateforme Crypt TV. Ils ont aussi une chaîne YouTube, d'ailleurs, si vous voulez jeter un œil. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je bosse beaucoup pour des publicités, pour des web-séries, pour du web, essentiellement sur de la vidéo. Je fais très peu de shooting photo. Après, ça peut être autant du maquillage naturel que du maquillage plus poussé ou des effets spéciaux, toujours. J'ai bossé aussi pour le musée de la miniature, où je me suis occupée de Madame Doubtfire. Donc, j'ai refait entièrement la perruque, que j'ai entièrement réimplantée à la main et repositionnée sur la tête, la tête en plâtre de Robin Williams. Avec les prothèses de Madame Doubtfire qui ont été restaurées par le musée parce qu'elles étaient en très mauvais état, et moi j'ai refait par-dessus le maquillage en fait des prothèses. Donc la prothèse et la perruque sont visibles au musée de la miniature dans le Vieux-Lyon. Voilà.
D'accord. Et c'est des prothèses qui ont tourné dans le film.
C'est les prothèses originales du film, oui. La perruque, du coup, elle n'est pas d'origine parce que c'est moi qui l'ai refaite, mais les prothèses, ouais, ont joué dans le film, oui.
Et donc, tu me disais aussi tout à l'heure que tu...
Oui, alors effectivement, j'ai failli oublier, j'enseigne également dans une école à Lyon, une école qui s'appelle Factory, qui est à Villeurbanne, et en fait, je donne des cours d'effets spéciaux à des élèves. En fait, c'est une école qui est en 2 ans, qui forment uniquement sur les effets spéciaux. Ils font un petit peu de décor aussi. Donc voilà, je suis intervenante là-bas depuis 4 ans.
D'accord.
Ça se passe très bien. Alors, j'ai aussi travaillé sur les publicités manga. Je ne sais pas si vous connaissez les locations de
véhicules
automobiles manga. Voilà.
Oui.
J'ai travaillé sur leur nouvelle mascotte qui s'appelle Mangaman, qui est un personnage assez farfelu qu'on peut voir sur les camions manga, sur leur site internet, sur les plaquettes et tout.
D'accord.
Et je me suis occupée du stylisme de Mangaman et du fabuleux M en poil qu'il aborde sur son torse.
D'accord.
Et c'était assez chouette comme projet. Et puis c'est rigolo de voir... la mascotte manga que j'ai fabriquée sur les camions manga, quoi. C'est rigolo.
D'accord. Eh ben, écoute, on fera attention à la prochaine fois qu'on croise un véhicule. On le regardera
voilà.
Avec attention en pensant à toi. Alors,
exactement.
Quelle formation as-tu suivi pour devenir maquilleuse ?
Alors moi, j'ai toujours voulu faire du maquillage. Enfin, j'ai toujours voulu travailler dans le cinéma et dans les effets spéciaux. Donc très tôt, j'ai harcelé mes parents pour partir de chez moi et qu'ils me laissent faire une formation là-dedans. Donc faut savoir que moi, je suis originaire de Corse, je suis pas du tout de la région lyonnaise à la base. Et c'est vrai qu'en Corse, les gens là-bas savaient pas trop ce que c'était que le cinéma. Enfin, travailler dans le cinéma, ça consiste en quoi ? Donc j'ai été très mal orientée au collège. Je suis allée voir une conseillère d'orientation qui m'a demandé ce que je voulais faire, et quand je lui ai dit que je voulais travailler dans le maquillage de cinéma, elle m'a envoyée dans une école d'esthétique.
Ah oui,
donc
d'accord.
Là, je suis partie à Lyon. Mes parents m'ont laissé partir à Lyon. Et là, effectivement, en rentrant dans cette école d'esthétique, j'ai bien compris que pas que je faisais pas du maquillage de cinéma. Donc j'ai quand même fini cette école-là. J'ai eu un CAP d'esthétique à 16 ans. Et enfin 17 ans. Et une fois ce CAP en poche, je suis partie à Paris. J'ai intégré une école d'art appliqué parce qu'il me fallait des bases solides en dessin pour pouvoir intégrer une école de maquillage. Et une fois mon école d'art appliqué terminée, j'ai intégré ITM Paris, une formation de maquillage sur Paris. Après, je me sentais pas, je me sentais à l'aise en maquillage, mais il me fallait encore. Enfin, j'étais intéressée quand même par la perruque. D'accord. Donc après, je suis revenue sur Lyon et j'ai fait, j'ai intégré l'atelier du Griffon, Lyon. Et du coup, j'ai appris la perruquerie et les bases des effets spéciaux. Après, par contre, tout ce que j'ai appris en FX après, je l'ai appris par moi-même en regardant des vidéos sur Internet et tout ça. Et je me suis aussi formée avec des petits stages que j'ai pu faire à Strasbourg, à l'école Métamorphose, où j'ai pu rencontrer Georges Duchel, qui est créature designer. Par exemple, c'est lui qui s'est occupé de créer les designs des créatures d'Avatar, donc les bonhommes bleus là, qu'on voit dans Avatar. Et du coup, j'ai super bien sympathisé avec lui et ça m'a permis d'aller aux États-Unis, en Californie, d'aller le voir dans son atelier et de travailler un petit peu avec lui sur quelques jours, voir un peu comment il peignait, tout ça. Il m'a un petit peu formé sur de la peinture et puis voilà. Donc c'est important de toujours continuer à se former et surtout à être curieux parce que les techniques de maquillage, elles évoluent tellement vite. Et même les techniques de cinéma, caméra, tout ça, il faut vraiment se tenir à jour. C'est hyper important.
Oui, il y a une veille technologique à faire en permanence. D'accord.
Ouais.
D'accord. Eh ben, écoute, est-ce que tu as des conseils pour nos auditeurs, s'il y en a qui t'a donné envie de devenir maquilleur, maquilleuse? D'ailleurs, est-ce que on dit maquilleur, est-ce qu'il y a des hommes maquilleurs?
Alors, c'est vrai que souvent quand on dit maquilleuse, mais il y a quand même beaucoup d'hommes maquilleurs. Autant en maquillage traditionnel qu'en effet spéciaux. En effet spéciaux, il y a énormément d'hommes. Il y a un peu moins de nanas, mais il y a quand même beaucoup d'hommes, oui. C'est vrai qu'on a tendance à dire maquilleuse, mais non, il y a énormément d'hommes.
Ah oui, c'est un métier mixte, en fait. C'est vrai que...
C'est complètement un métier mixte. C'est vrai que souvent, c'est comme coiffeur. On pense tout de suite à des coiffeuses, mais non, il y a quand même beaucoup d'hommes... Dans le métier de maquilleur.
D'accord, oui, donc c'est un métier. Voilà, donc c'est un métier mixte, il n'y a pas de souci. On peut,
exactement.
Homme ou femme, on peut exercer ce métier. Et donc,
totalement.
D'accord. Est-ce que tu as des conseils à donner?
Oui, j'ai des conseils à donner. Alors, après, il faut faire un métier vraiment de passion, il ne faut pas faire ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des écoles de maquillage parce qu'ils aiment se maquiller. Je pense que c'est une erreur. Il faut vraiment être passionné parce que c'est pas un métier facile. C'est des horaires qui sont pas évidents. Le statut d'intermittent, c'est un statut qui est pas évident non plus.
Oui.
Et puis, il faut pas se dire qu'on fait ce métier-là pour maquiller des stars. Parce que on va pas forcément maquiller Brad Pitt. On va pas forcément maquiller des gens connus. Tout de suite, en sortant de l'école, c'est pas évident. Donc, faut vraiment s'accrocher. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'il faut être passionné.
C'est un métier passion, comme tu le dis.
C'est complètement un métier de passion et il faut pas hésiter à se tenir à jour sur les techniques, les méthodes et tout ça. Et voilà.
D'accord. Eh bien, écoute, Faustina, je te remercie beaucoup. Et puis, est-ce que tu peux donner le titre? Je me rappelle pas du titre du court-métrage qui va sortir le 11.
Alors, le titre, ça s'appelle 100% organique. Et c'est... C'est une coproduction lyonnaise avec Bloc 8 Productions et américaine avec Crypt TV. C'est le réalisateur qui a fait Hostel, en fait.
D'accord. Bon, d'accord. De toute façon, voilà. On mettra un lien, s'il est visible sur YouTube, on mettra un lien sur la page de l'émission pour que nos auditeurs puissent le voir.
Et super.
Voilà, comme ça, et puis moi, c'est avec plaisir que je vais découvrir aussi ce court-métrage. Eh bien, Faustina, je te remercie beaucoup pour...
Eh ben, merci à toi.
Et puis, écoute, bon vent dans ton métier, et puis, à très bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, comme vous avez pu l'entendre, c'est un métier passionnant et de passion. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de Faustina de Souza. Donc, c'est www.faustina-desouza.com. Sinon, vous tapez sur Google Faustina de Souza maquilleuse à Lyon et vous allez forcément tomber sur sa page.
J'y vais, mais j'ai peur.
Donc, maintenant, nous recevons NS, qui est donc NS Bingle, qui est en première année au BTS audiovisuel au lycée Léonard de Vinci de Villefontaine. Bonjour.
Bonjour.
Donc, quel a été votre parcours avant d'intégrer le BTS ?
Mon parcours, ça a été déjà au lycée, après une seconde générale, j'ai fait une première scientifique. Et donc, j'ai redoublé cette première scientifique et c'est là où j'ai fait l'option CAV, donc cinéma audiovisuel. Et après cette option, j'ai fait cette année et là, j'ai cassé mon bac scientifique pour aller sur un bac STMG, donc sciences technologiques du management et de la gestion. Et c'est durant cette année de terminale où j'ai eu la chance de participer en tant que stagiaire à des courts-métrages. À Bourgoin-Jallieu d'ailleurs.
Ah, intéressant ça.
Même à Vigneux précisément aussi.
À Vigneux.
À Vigneux, grand du cinéma. Charmante bourgade iséroise.
Le Bollywood du Nord-Isère.
C'est ça. Et du coup, je pensais faire des stages juste observer tout ça. Et c'est là où je tombais dans le milieu. Enfin, on m'a annoncé que j'allais être second assistant réalisateur sur le premier court-métrage. Donc j'ai appris vraiment sur le tas. Et puis on m'a rappelé en été pour un second court-métrage, même endroit. Et là, j'ai été crédité en tant que premier assistant réalisateur.
Très bien, donc la carrière s'était lancée.
Entre autres, ouais.
D'accord.
Et en fait, c'est ça qui m'a confirmé...
Votre choix.
Ouais, c'est ça qui a confirmé mon choix.
D'accord. Et quelle option vous avez choisi au BTS ?
Au BTS, j'ai pris option gestion de production.
Donc, qui n'a rien à voir avec la réalisation, pour le coup ?
Pour le coup, oui. Mais ça s'accorde avec le bac que j'ai passé. Du coup, et c'est un choix aussi que j'ai fait sur conseil du réalisateur avec qui, pour le court-métrage avec qui j'avais travaillé, et pour reconnaître le plus déjà avant de me lancer justement dans ce projet de réalisation. Tout ça.
D'accord. Et en quelques mots, ça consiste en quoi donc cette option gestion de prod ?
Gestion de prod, on va étudier, par exemple niveau cinéma, tout ce qui va se passer, donc déjà tous les métiers quasiment. On va voir qui fait quoi, qu'on va apprendre à connaître tout ça. Entre autres, on apprend aussi un peu ce qui se passe en télé et aussi ce qui va se passer en tout ce qui est spectacle vivant, ça organisé. Et à part ça, vu que là j'ai commencé tout juste la formation, je suis encore au début. Mais ça va être surtout niveau cinéma, on va vraiment apprendre les métiers, tout ça. Mais c'est pas forcément ce qui va servir pour la réal.
Une question concernant le BTS audiovisuel de Villefontaine. Quel a été l'intérêt pour intégrer cette école ? Par quel biais vous avez fait connaissance ou vous avez eu des informations concernant cette école ?
Par le biais d'anciens élèves qui y étaient. Et juste, en fait, c'est vraiment sur les courts-métrages où j'ai travaillé que c'est tout là que ça s'est lancé. Donc j'étais avec des anciens élèves de Villefontaine.
D'accord.
Le réalisateur lui-même était un ancien élève de Villefontaine. Et après, pour intégrer l'école, je suis passé par APB, c'est ce qui se passe l'année terminale du bac.
D'accord.
Inès, j'avais aussi une question. Est-ce que là, déjà, vous avez un métier qui vous intéresserait plus qu'un autre ?
Là pour l'instant déjà je suis encore fixé sur la réalisation encore, mais depuis que j'ai commencé et j'en découvre encore et encore. En fait c'est plus large, plus vaste que ce que je pensais.
C'est riche.
C'est très riche et je m'attendais pas à ce que ça le soit autant, du coup mais je reste sur la réalisation pour l'instant.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Enes. Je vous souhaite bon vent pour vos études et votre carrière. Et peut-être qu'un jour, on parlera de vous dans notre émission.
Merci.
Merci, Enes.
Alors, vous êtes toujours sur Couleur FM 97.1. Et nous allons maintenant écouter Street Life de Randy Crawford, tiré du film Jackie Brown.
We'll be right back.
C'était Street Life pour le film Jackie Brown de Quentin Tarantino.
Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement elle est gentille.
Et oui, c'est la rubrique critique ou pas critique qui commence. Aujourd'hui, je vous parle de deux films. Pour commencer, Un beau soleil intérieur, titre du dernier film sorti de Claire Denis. Pour ceux qui ont besoin de resituer cette réalisatrice, elle a déjà entre autres à son palmarès White Material avec Isabelle Huppert, plus récemment Les Salauds avec Vincent Lindon. Elle propose toujours des histoires avec des personnages forts, organiques, au sens toujours en éveil. Nous retrouvons ici Isabelle, interprétée par Juliette Binoche, artiste peintre qui veut trouver l'amour. Mais quand je dis qu'elle veut, elle veut vraiment. Y met un volontarisme forcené. Tout le long du film, nous suivons Juliette Binoche, omniprésente, et nous sommes témoins de ces différentes relations qui s'achèvent, qui commencent et qui n'arrivent pas à s'arrêter. Un banquier odieux magnifiquement joué par Xavier Beauvois, un acteur torturé, Nicolas Duvauchel, juste, dont cette fois j'ai compris l'élocution, un homme énigmatique qui arrive de nulle part, un directeur de musée, jusqu'au final que je ne vous dévoilerai pas, avec un Gérard Depardieu surprenant.
Encore Gérard Depardieu. Mmh.
Mais là, vraiment surprenant dans cette intervention.
On le voit vraiment partout, cet homme-là. Hein.
On prend plaisir à voir l'évolution de ces différentes histoires, comme des scénettes mettant en scène plusieurs Isabelles qui rencontrent des hommes au parcours différent. D'ailleurs, petit aparté personnel, je ne sais pas comment elle fait pour rencontrer autant d'hommes en si peu de temps. Cela m'aurait bien servi à une certaine période de ma vie. Bref, les dialogues sont un régal, notamment les moments avec Nicolas Duvauchel qui tourne à l'absurde. Le microcosme artistico-parisien en prend aussi pour son grade. Voir Bruno Podalydès campant un galeriste méprisant et la jolie scène d'artiste parisien s'appropriant un paysage de campagne. Juliette Binoche est magnifique de justesse et d'émotion. Nous l'accompagnons dans son désespoir de ne pas trouver l'âme sœur. Mais au bout d'un moment, on se demande un peu comment cela va se passer avec le prochain. Son volontarisme d'amour lasse un peu. On a envie de lui dire « Allez, lâche prise, arrête de t'accrocher à tout prix, il faut laisser faire. » De même que l'on a envie de voir rayonner plutôt ce beau soleil intérieur, invitation tardive. Voici ma critique de « Un beau soleil intérieur » de Claire Denis.
Roberto, io parlo.
Si je vous dis, les amis, film d'animation japonaise, vous me répondez ?
Astérix ?
Oui, pas mal. Quoi d'autre ? Bon, Miyazaki, les studios Ghibli, c'est pour enfants, tout ça. Eh bien, moi, je vous réponds Masaaki Yuasa. Et ce sont des films pour tout le monde.
Vous pouvez répéter, oui. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît.
Masaaki Yuasa commence son travail dans l'animation dans les années 90 et participe notamment au très remarqué Nekuji Russo, réalisé par Tatsuo Sato, n'est-ce pas ?
Sandrine, recommencez, s'il vous plaît.
Les fans de l'émission Tokyo Yumi sur cette radio couleur FM apprécieront, les autres iront se renseigner. En 2004, il réalise son premier film Mind Game au sein des studios Studio 4 Degrés. Le film est déjà remarqué à l'époque par la technicité et la diversité de son animation. Yuasa réalise également des séries pour les studios Madhouse. En 2013, il fonde son propre studio d'animation, Science Saru. Bref, un monsieur débordant d'énergie et d'idées artistiques. Nous le retrouvons ici avec Yoake Tsugeru Lou no Uta. En français dans le texte, Lou et l'île aux sirènes, ce film d'animation dont voici le résumé. Après le divorce de ses parents, Kai quitte Tokyo pour vivre avec son père et son grand-père dans un village de pêcheurs. La déprime. Il se lie d'amitié avec deux camarades de classe, Yuo et Kunio, avec lesquels il va former un groupe de musique. Kai fait la rencontre de Lou, une sirène qui adore la musique. Oui, c'est comme ça au Japon, on rencontre des sirènes assez facilement. Au son de la musique, sa queue se transforme en jambe et elle commence alors à chanter et danser de façon endiablée. Et tous les gens alentour sont pris d'une frénésie de danse. Malheureusement, les sirènes et les créatures de la mer ne sont pas appréciées par tous les habitants du village. Ce film, Lou et l'île aux sirènes, a remporté le prix du Cristal au Festival d'Annecy en 2017. Lou et l'île aux sirènes regorgent d'énergie et de trouvailles visuelles, tant dans les couleurs que dans la représentation de l'eau. Bien ficelé, c'est un film destiné à un public familial. Le scénario fait aussi la part belle aux personnages secondaires et aux décors. La peinture d'un petit port de pêche est particulièrement convaincante. Dans ce film, on y évoque la crise économique, les conflits entre générations, ceux qui ont tenté leur chance dans la capitale. Bref, des niveaux de lecture différents, adaptés à tout public. Je ne peux que vous recommander de plonger avec délice dans l'univers de Lou et l'île aux sirènes de Masaaki Yuasa. Et c'est le moment de notre réplique en live.
Oui, Sandrine, bonjour. La réplique en live, qu'est-ce que c'est ? C'est une réplique à entendre, à écouter et à se dire « Mais de quel film est-elle, cette réplique ?» Vous pourrez gagner des places de cinéma en téléphonant au 09 79 21 33 77. 09 79 21 33 77. C'est parti. Tu sais ce que c'est, ça, Rémi ? C'est une plume de pigeon. Elle sécrète un produit gras et puant qui attire la femelle. C'est bien fait, la nature.
J'imagine que vous ne pouvez pas la redire. C'était une prise unique.
On peut recommencer, prise unique et monoprix. Tu sais ce que c'est, ça, Rémi ? C'est une plume de pigeon. Elle sécrète un produit gras et puant qui attire la femelle. C'est bien fait, la nature. Autre chose ?
C'est parfait pour moi.
Moi, je crois que j'ai trouvé.
Presque trouvé.
«
Je suis heureux de vous présenter cette chronique dans laquelle je parlerai de ce qui se passe dans la région autour des longs, mais aussi des courts-métrages. Quand je parle de région, ce n'est pas forcément de l'Isère, mais en fonction de l'actualité, nous pourrons étendre notre zone de travail. Si vous avez une actualité, un festival, une soirée de projection, un projet de film, vous recherchez des acteurs, des figurants, des techniciens, etc. etc. Enfin, vous avez un projet vidéo, contactez-nous pour que nous puissions relayer votre information. Je commencerai en parlant du festival du film pour enfants de Visil et de Villarbonneau. Du 23 au 31 octobre, ce sont 30 films qui seront projetés dans 5 salles. Pour cette 19e édition, sur le thème décalé, les jeunes spectateurs verront des films aussi bien ludiques que loufoques et auront le privilège d'avoir quelques avant-premières. Chaque projection s'accompagnera d'ateliers, de rencontres avec des professionnels du 7e art, et comme c'est des enfants, de goûter. L'ensemble des films est destiné à un public de 3 à 6 ans et les séances débutent à 10 heures. Pour tout renseignement, vous pouvez visiter le site internet du festival www.festivaldufilmpourenfants.fr. Ensuite, dans le cadre du Festival Lumière de Lyon du 14 octobre au 22 octobre, je voulais parler d'une soirée ou plutôt d'une nuit particulière. Pour les amoureux de la science-fiction, le samedi 21 octobre, rendez-vous dans l'espace. Durant cette nuit, 4 films seront projetés. Gravity, Interstellar, Star Trek et Seul sur Mars. Tout a été organisé pour vous aider à voyager le plus confortablement possible durant cette longue nuit, avec bar et dortoir pour ceux qui n'auront pas la force de tenir ce marathon, et petit déjeuner à l'aube pour tous les courageux. Cette soirée se passe à la halle Tony Garnier. Pour tout renseignement, je vous invite à aller visiter le site du Festival des Lumières, www.festival-lumière.org.
Busting makes me feel good.
Vous êtes toujours sur Studio Ciné, sur Couleur FM 97.1. Nous venons d'écouter Ghostbusters de Ray Parker Jr. pour un film de Ivan Reitman. Et maintenant, c'est au tour de Georges qui va nous parler des films en préparation.
Et oui, et ce mois-ci, l'actualité est très dense. J'ai quand même fait un tri. J'ai retenu deux infos très importantes. La première, c'est que le duo Simon Pegg et Nick Frost, que nous avons pu voir entre autres dans l'excellent Hot Fuzz, Shaun of the Dead et encore dernier pub avant la fin du monde. Donc ils ont lancé la coproduction de leur prochain film qui s'appelle Le Puits de l'au-delà, et c'est une comédie horrifique déjantée dont l'action se déroule dans un internat d'élite en Angleterre où les filles et les garçons sont formés pour atteindre le pouvoir et la noblesse. Mais tout ce monde et ce rituel et ces règles hyper strictes vont être ébranlés quand une fracturation hydraulique, donc très controversée et qui a lieu sur le domaine de l'école, provoque des secousses sismiques causant l'apparition d'un mystérieux puits d'où émerge une créature des profondeurs. Connaissant le duo Pegg et Frost, on peut s'attendre à un film délirant et forcément drôle.
Et qu'on les connaît, parce que nous, on ne les connaît pas. Hein.
Je vous invite à découvrir leur trilogie Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Dernier Pub.
Déjà Hot Fuzz, ouais,
c'est je crois le dernier Pub, on peut le retrouver sur Netflix.
Bien sûr, bien sûr. C'est vraiment hilarant et c'est vraiment deux acteurs que j'adore et qui sont hyper drôles.
Et vous le dites.
Et oui. Et je signale aussi que le cinéma indien, parce que il y a quand même une très grosse actualité du cinéma indien. Donc le cinéma indien se lance dans la science-fiction et absolument pas à la sauce bollywoodienne.
C'est drôle pourtant.
Oui. C'est vrai que ça pourrait être drôle.
Je crains le pire.
Mais là, il se lance vraiment dans la science-fiction. Et donc l'industrie évolue très rapidement, cette industrie du cinéma en Inde. Et depuis quelques années, ils se sont vraiment développés. Je connais par exemple des sociétés comme Bashan Soft et Discrete Arts qui travaillent déjà avec des productions américaines sur des gros projets de films. Donc là, on va avoir un déferlement de films coproduits par les Indiens. Et il y a un film en particulier qui va arriver, qui a été réalisé par Shakti Surdar Rajan, qui nous a surpris avec Mirutan. Je vous conseille de voir ce film. C'est un film très drôle. Donc c'est le premier film de zombies réalisé en langue tamoule. Voilà, donc rien que ça.
Tout un programme.
Voilà, exactement. Rien que ça, c'est génial. Et en fait, c'est un film qui a eu un énorme succès en Inde et à l'étranger.
Vanakkam.
Exactement.
Ça veut dire comment ça va en tamoul.
Exactement.
Sûr.
Est-ce que vous pouvez nous redonner le titre, s'il vous plaît?
Mirutan.
Mirutan.
Voilà. Et par exemple, il a été sélectionné au Festival Fantasia de Montréal et au Sitges en Catalogne, donc en Espagne, qui sont deux gros festivals de films fantastiques.
Alors, Catalogne en Espagne, parce que maintenant, attention.
Pour l'instant.
Pas en Catalogne.
Voilà. C'est en Catalogne. Et donc, ce film de science-fiction s'appelle Tic Tic Tic, et je vous avoue que je l'attends avec impatience.
Et après, il y aura Tac Tac Tac, et il y aura Garcia Moore qui fera la réalisation.
Et vraiment, je vous conseille de découvrir Rajan, parce que c'est vraiment un réalisateur qui est très surprenant.
Et en un doute, Tic Tic Tic, c'est...
C'est en tamoul.
En tamoul, pardon.
Tic Tic Tic, en fait, c'est le bruit que fait l'eau quand elle goûte, parce que je vous dévoile pas l'intrigue, mais ça se passe sur une planète que de notre système solaire, une autre planète que la Terre. Et donc, voilà, je vous en dis pas. D'accord. Plus, vous allez voir.
Je pense que le titre, c'est plus tic.
Peut-être bien.
Dans la rythmique.
Oui, peut-être.
Peut-être même beaucoup plus long.
Peut-être encore plus long. Enfin bref. Et je vais vous parler aussi du cinéma chinois, parce que eux aussi, alors eux, ils ont déjà bien envahi le reste du monde au niveau cinéma. Parce que si, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, la plupart des gros films américains, je parle des blockbusters américains, sont coproduits par des sociétés chinoises. Donc eux, ils coproduisent beaucoup de films et ils s'attaquent même maintenant au cinéma à tel point que ils produisent Chasseurs de monstres. Donc c'est un dessin animé.
Et Valérian aussi de Besson avait été fortement produit par différentes sociétés chinoises. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Et donc ce film, en fait, il a été créé par le créateur de Shrek et Dragon. Donc je pense que tout le monde connaît Shrek et Dragon. Et tout ça parce que DreamWorks a été récemment vendu par ses créateurs, donc Spielberg, donc les trois SKG, Spielberg, Katzenberg et Le G, qu'on oublie toujours. Mais ils ont vendu DreamWorks et c'est des Chinois qui sont derrière tout ça et qui ont racheté. Et donc, voilà, ils se lancent dans le dessin animé à travers DreamWorks qui a perdu sa nationalité américaine. Ce mois-ci, mais je vous en parlerai dans la prochaine émission, il va y avoir le MIPCOM à Cannes du 16 au 19. Donc le MIPCOM, si vous ne connaissez pas, c'est le festival de Cannes, mais sans tout le tralala du festival de Cannes avec les starlettes et tout.
Et même pas à Cannes.
Et si, quand même, ça reste à Cannes.
Il n'y a pas de tralala non plus à Cannes.
Ouais. Non, pas du tout. C'est vrai que c'est connu pour sa sobriété. C'est un festival qui est tout à fait connu pour sa sobriété. Enfin bref, donc là, on se retrouve entre professionnels.
Peut-être qu'on aura l'occasion de faire des rubriques là-bas.
Eh ben, je vais y aller. Donc, j'espère faire des interviews. Et je suis déjà en train de prendre des rendez-vous.
Ma réponse sera tic-tic-tic.
Et donc, on peut voir des screenings. Donc là, il y a toute la planète du cinéma qui revient, mais donc, comme je vous le dis, sans le tralala, sans tout le bling-bling du festival de Cannes.
Alors pour ceux qui sont un petit peu néophytes, est-ce que dans ce festival MIPCOM, il y a aussi des projections pour le public? Ou ça concerne seulement les professionnels?
Et non, ça ne concerne que les professionnels. D'accord. C'est, voilà, pour moi, c'est le festival de Cannes quand on est professionnel. Parce que on peut vraiment avoir le temps de rencontrer les gens. Ils sont plus accessibles. On y va moins pour se montrer des choses et plus pour vendre des projets. Donc du coup, c'est beaucoup plus sympathique en tant que professionnel. Mais je vais y aller et je vous ramènerai des informations pour la prochaine émission du mois prochain.
Très bien, Georges. Vous avez d'autres choses à nous dire ?
Eh bien, écoutez, non, là, je crois que j'ai terminé. J'étais assez bavard.
Je crois que Lionel a des petites précisions à nous apporter.
Ah, il n'y a pas de musique avant, non, j'y vais direct.
Non, on enchaîne.
D'accord. Oui, comme on disait tout à l'heure, on parlait aussi donc, du petit écran. Sur Netflix, une série que j'aime beaucoup, qui s'appelle Au service de la France, qui avait été produite, entre autres, par Arte. Au service de la France, très très bonne série. Si vous avez aimé OSS 117, vous aimerez le genre de la série. Ça se passe dans les années 62. On est dans les services secrets français, dans un esprit très colonial, très très général de Gaulle. Si vous avez Netflix, allez-y. Au service de la France, n'hésitez pas. Pour l'instant, il y a une seule saison. Je crois que c'est 8 épisodes et je crois que la saison 2 est en tournage. Voilà, allez-y. Au service de la France. Repos.
Donc le mois prochain, nous reviendrons aussi avec une rubrique donc qui concerne Richard, un peu plus étoffée avec des
merci
touffu, elle sera touffu.
Touffu, voilà. Non, mais plus avec des
je vais t'en mettre des tics.
Avec des annonces de tournage, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de tournages qui se passent en région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, et on n'en entend malheureusement pas assez parler. Pourtant, il y a une très, très, très grosse activité. Donc, on va augmenter l'actualité à ce niveau-là. Et puis, je pense que Sandrine, vous allez certainement voir beaucoup de films.
Mais bien sûr.
D'ici là ?
Et absolument.
Quelle chance.
Bien sûr.
Et là, on vous envie parce que...
Je vous dirai tout ce que j'en pense, du bien ou du pas bien, mais voilà, je vais passer ça à la moulinette, comme l'a dit Richard.
D'accord. Et donc, je vais je vais tout simplement conclure l'émission maintenant. Je vais vous dire au revoir, les amis. C'est tout pour ce mois-ci. Bonne toile si vous avez la chance d'aller au cinéma. Et je tiens particulièrement à remercier Laurent, notre metteur en onde, Laurent Forcheron, qui est notre metteur en onde, Peter Houben, qui nous a créé le générique et préparé tous les sons et musiques que vous avez entendus pendant l'émission, et bien sûr toute l'équipe de Couleur FM, et notamment Véronique, qui nous ont accueillis et qui nous ont donné notre chance pour lancer notre émission. Voilà, nous nous retrouvons le mois prochain, et je vous dis... à très très bientôt.
Au revoir Georges, au revoir Richard,
au revoir Lionel,
au revoir Sandrine, merci Enes, futur critique de cinéma turc Enes Bingöl.